150 000 environ, 150 000 francs-maçons en France, à peu près, ça fait 0,25% de la population. Alors si la franc-maçonnerie est la vision d'avenir, peut-être, mais là je crois qu'il faut rester modeste. Alors ensuite, est-ce que la franc-maçonnerie a une vision d'avenir ? Peut-être, mais elle est bien cachée. Parce que pour le coup, sur les grands problèmes qui nous préoccupent, on ne s'exprime pas trop. Je veux parler, par exemple, du problème du climat, des problèmes de l'immigration, etc. Bon, je ne dis pas qu'on est absent de tous les sujets, mais dire qu'on a une vision sur ces questions-là, ça me semble beaucoup. Donc, je me pose la question. Tous ces travaux qu'on fait en loge, au Grand Orient de France, par exemple, les questions à l'étude des loges, qu'est-ce qu'on en fait à la fin de tous ces travaux ?
C'est perfide.
Merci. Oui, c'est une vaste et perfide question, parce que, en effet, qu'est-ce qu'on en fait ? Et je suis d'accord, il n'y a pas. Enfin, je crois que nous devons être humbles. Ça, c'est entendu. Il n'y a pas de vision unitaire, je crois, de quelque obédience que ce soit sur les grands problèmes. Et les questions à l'étude des loges, hélas, elles sont parfois un petit peu remisées. Et à défaut de constituer une vision de ce que le Grand Orient pourrait dire, au moins ont-elles permis le débat en loge. Et la première chose qui est importante, ce n'est peut-être pas pour l'instant d'apporter une réponse universelle aux problèmes qui se posent, mais de pouvoir se poser correctement à l'échelon de la loge ou des colloques ces problèmes-là, de sortir un petit peu des sentiers battus. C'est ce que je vous disais lorsque je parlais d'experts. Nous sommes dans une société d'experts ou de pseudo-experts qui nous désapproprient de l'engagement citoyen, même si les savoirs, les technologies sont extrêmement pointues et qu'il est nécessaire, dans cet exemple-là, que les experts nous aident à nous saisir de ces problématiques, il faut pour autant redonner une dimension citoyenne dans les choix de société. Bien, je crois que la maçonnerie, c'est au moins cela. Donc c'est vraiment... nous n'aurons peut-être pas le prix Nobel... Mais du moins, nous aurons tous contribué modestement à penser les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et comme cela a été dit, en recul, à la fois en recul sur le monde et en surplomb sur la rapidité, l'immédiateté, les informations que nous ne pouvons pas tous personnellement maîtriser. Je crois que c'est au moins cela. Mais nous avons juste un exemple. Nous avons fait les utopiales. C'est la troisième série des utopiales. Nous avons essayé de faire travailler en amont les loges et nous avons répercuté les travaux des loges à la faveur de ces utopiales. Et nous avons, là encore, donné la parole à des personnes qui ne sont pas forcément les ténors qui arpentent les plateaux de télévision et qui nous livrent toujours à peu près le même salmigondi intellectuel. Donc, je crois que c'est peut-être cela, à minima, ce que l'on peut faire, c'est donner à tous et à toutes les outils nécessaires pour penser différemment le monde et pour dire différemment le monde. Car on ne change pas le monde si nous partageons tous la même manière de le dire. Il faut d'abord le voir différemment. Hein, la philosophie née de l'étonnement, c'est-à-dire de l'étrangeté du monde. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi, la maçonnerie, c'est qu'à travers ses rites, c'est cet aspect étrange. Cet aspect, semble-t-il anachronique, désuet du rite, qui nous amène justement à devoir le questionner, et donc, comme je redis hein, tout ce qui a été dit, à lui donner un sens.
Vous ne craignez pas que, comme cela se dit parfois, on regarde un peu les trains passés, enfin la franc-maçonnerie globalement, on regarde un peu les trains passés en disant, ben, nous on réfléchit pour l'instant, nous on réfléchit. Est-ce qu'on est dans l'air du temps ? Ça ne veut pas dire partir... à chaque fois la fleur au fusil, mais est-ce que on n'a pas, enfin la franc-maçonnerie n'a pas tendance à attendre, quoi, finalement, à reposer les mêmes questions en loge, etc., pour fournir à peu près le même travail d'une année sur l'autre, avec une production qui peut être considérée à force un peu comme désuète, c'est ça que je veux dire. Oui.
Oui, mais nous, juste, je sais, je ne vais pas monopoliser, mais il y a une temporalité de la maturité intellectuelle. On ne peut pas instantanément donner une réponse à tout. Il faut le temps du recul et de la méditation, ça a été dit, mais il faut vraiment garder cela en tête. Et quand vous voyez un petit peu comment vont les réflexions dans le monde profane, vous dites que l'indigence, y compris chez certains experts, mérite que l'on prenne le temps de réfléchir. Bien, ça, c'est aussi le cadre de la loge, c'est le lieu sanctuarisé de la maturation de l'idée. Nous ne sommes pas dans la même temporalité. Et ça, ça a été dit, hein, c'est extrêmement important. Et d'autre part, nous pouvons aborder d'autres sujets. Si vous voulez penser aujourd'hui l'humanisme, bien sûr, vous pourrez dire ah, il faut être comme maître et possesseur de la nature, disait Descartes, il faut s'instituer comme sujet qui édicte ses lois au monde. Oui, mais quand vous avez aujourd'hui des technologies que vous allez greffer sur votre cerveau, avec des hybridations biotechnologiques qui augmentent vos capacités, que vous êtes capable d'entrer par l'ingénierie génétique dans l'essence même de la biologie des corps, à ce moment-là, d'abord, les anciennes sagesses ou les anciennes philosophies n'ont aucune réponse à apporter, car elles n'étaient pas confrontées au caractère novateur de ces réflexions. Et nous pouvons justement parler de cela et nous donner le temps de la réflexion nécessaire.
Martine, vous vouliez dire quelque chose.
Je voulais juste illustrer en prenant des exemples concrets. Il me semble effectivement, j'entends bien ce que dit Christophe, mais si nous prenons par exemple la question de la fin de vie, c'est quand même un sujet qui a commencé à être dans les textes en France en 2002. Il y a eu ensuite la loi Leonetti de 2005 et le débat a été remis à l'ordre du jour par le président de la République. Et là, je dois dire que je pense que nous avons peut-être raté une opportunité en prenant cet exemple très concret, parce qu'il y avait un projet de loi. On a vu à quel point progressivement le projet s'est réduit. C'est-à-dire qu'au début, il y avait effectivement le suicide assisté qui était quand même envisagé. Je ne parle pas d'euthanasie, mais le suicide assisté. Et au fur et à mesure, le texte s'est réduit dans sa portée. Et nous ne nous sommes pas exprimés. Alors que là, dans nos obédiences, sur cette réflexion-là, qui est vraiment une question de souffrance, de mort, donc de sens, nous avions fait cette réflexion déjà. Et nous ne l'avons pas soutenu un projet qui était alternatif et qui aurait peut-être pu amener à une progression de la société, à mon avis, plus importante. C'est un exemple, mais je me suis interrogée.
Jean-Michel, oui.
Personnellement, je suis pessimiste quant à l'influence des obédiences maçonniques escalité dans ce débat. Nous avons, en Grande Loge de France, comme dans les autres obédiences, des questions à l'étude des loges. Ces questions à l'étude des loges font l'objet d'une synthèse qui est remise chaque année au Premier ministre, au Conseil économique, social et environnemental, et à d'autres autorités de la République. Résultat des courses, il ne se passe rien, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. J'ai l'exemple récent de la contribution de la Grande Loge de France à la laïcité. L'Observatoire de la laïcité avait sollicité la Grande Loge de France, comme il a dû solliciter les autres obédiences, pour avoir notre avis. Nous avons produit un travail par l'intermédiaire de notre délégué à la laïcité. Ce travail a été mouliné par les services de M. Jean-Luc Bianco et nous est retourné et on ne retrouvait pas nos enfants là-dedans. Je ne sais pas, c'est celui qui a lu ce texte et qui l'a retranscrit devait avoir un genre de machine Enigma qui a transformé le texte. Et donc, c'est pour ça que nous, en Grande Loge de France, on est plus dans l'optique d'un travail personnel qui après sera démultiplié dans la société parce que nous avons 34 000 relais qui vont agir tous les jours dans leur milieu amical, dans leur milieu social, dans leur milieu associatif et dans leur milieu professionnel. Et je crois que par là, on peut être beaucoup plus utile que par une voie d'obédience qui ne va pas être écoutée de toute façon.
Oui, je vous en prie.
Oui, je voudrais répondre sur la question du sentiment de laisser passer des trains. Et effectivement, sur cette question notamment de la problématique de fin de vie. C'est une problématique à la Grande Loge Mixte de France dont nous nous sommes emparés Nous avions réalisé une conférence, notamment en présence de Philippe Mahou, qui était le député belge qui avait porté la loi sur l'euthanasie en Belgique. Et nous avions également porté cette question à l'étude des loges, puisque nous pratiquons également de la même manière. Eh bien, ce que nous avions observé, c'est qu'il n'y avait pas de consensus entre les loges sur ces questions. Et donc, en réalité, notre travail, c'était plutôt d'essayer d'éclairer, de faire comprendre et au moins de poser les termes du débat. Parce que le but de la franc-maçonnerie, c'est effectivement d'émanciper l'homme pour qu'il puisse se prononcer librement et en connaissance de cause. Mais dégager une solution unique et un texte, a fortiori un texte de loi, ça n'était pas possible dans nos loges. En revanche, en débattant, en posant les problématiques à la fois philosophiques, juridiques, médicales, on a permis de dissiper un certain nombre de points qui souvent empêchaient la compréhension du problème. Pour autant, on ne donne pas de solution définitive, faute de consensus. Mais ce n'est pas choquant. Ce qui importe pour nous, c'est le
éclairer un certain nombre de points à l'interne, alors, à l'interne de votre obédience.
Les travaux vont être écrits et portés effectivement vers l'extérieur. Mais je pense que ce travail de préparation est essentiel. Après, pour le reste, chacun se détermine librement. C'est notre philosophie.